sur Radio Franca. Radio Franca, c'est la radio des enfants. Retrouvez toutes les émissions sur franca-on-r.fr.
Bonjour à tous et à toutes. Vous écoutez Radio Franca en direct de l'école Henri Barbus à Omeco.
Bonjour Yamina.
Bonjour à tous. C'est avec un grand plaisir que nous accueillons la classe de CM1-CM2 de Badimprix. Aujourd'hui, nous allons vous présenter trois projets de classe. Dans un premier temps, nous vous parlerons de mythologie, puis de cinéma, et nous vous présenterons en fin d'émission notre projet de danse marionnette.
Effectivement, Asma, nous allons commencer par le projet mythologie. Depuis le début de l'année, nous lisons les épisodes d'Ulysse, et nous voyageons avec lui et découvrons les personnages de la mythologie grecque. Et vous, chers auditeurs, connaissez-vous les personnages de la mythologie grecque ?
Nous accueillons à présent Gaëtan, Aaron, Koji, Rose, Luca et Anthony qui nous ont préparé des charades. Trouverez-vous la bonne réponse ?
Mon premier est la première lettre de l'alphabet. Mon second est la boisson chaude qui peut être rouge, vert, noir ou blanc. Mon troisième est la première syllabe du mot natation. Mon tout est le nom de la sagesse, de la déesse de la sagesse. Avez-vous reconnu Athéna ?
Mon premier est la première lettre du mot éléphant. Mon second est le premier et la première lettre du mot rigoler. Mon troisième constitue notre squelette. Mon tout est le nom du dieu de l'amour. Je vous parle bien sûr d'Eros.
Je peux sauter au-dessus de mon premier sport. Mon second est la première syllabe de café. Mon tout est le nom de la déesse aux trois visages de la lune. Hécate était facile à trouver.
Je respire mon premier. Mon second est une grande ville de la Moselle. Mon tout est le nom du messager des dieux. Avez-vous reconnu Hermès ?
Mon premier est le contraire de vivant. Mon second fabrique une robe et une carrosse à Cendrillon. Mon tout est le dieu des rêves. Bonne nuit dans les bras de Morphée.
Mon premier est le contraire de bas. Mon second est un déterminant démonstratif pluriel. Mon troisième est le cousin du mulet. Mon quatrième constitue mon squelette. Mon tout est le nom du titan des mers et des océans. Océanos n'était pas facile à trouver.
Mon premier recouvre mon corps. Mon second est un déterminant possessif singulier. Mon troisième est la neuvième lettre de l'alphabet.
Mon quatrième est la deuxième syllabe de dindon. Mon tout est le nom du dieu des mers. Aviez-vous trouvé Poséidon ?
Mon premier est la première syllabe de zébulon. Mon second est le féminin de garçon. Mon troisième est la 18e lettre de l'alphabet.
Mon tout est le nom du dieu des vents du sud. Laissez-vous emporter par Zéphyr.
Mon premier est le contraire de lait. Mon second est un poisson plat. Mon tout est le nom du dieu du vent du nord. Ne vous laissez pas glacer par Borée.
Mon premier est un article indéfini pluriel. Mon second est un déterminant possessif pluriel. J'habite sur mon troisième. Mon tout est le nom de la déesse de la moisson et des saisons. C'est bien évidemment Déméter.
C'est ainsi que s'achève la partie mythologie. Place au cinéma, avec une pause musicale.
Je me baladais sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu. J'avais envie de dire bonjour à n'importe qui. N'importe qui, et ce fut toi. Je t'ai dit n'importe quoi. Il suffisait de te parler pour t'apprivoiser. Aux Champs-Élysées. Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. À
Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé, et l'on n'a même pas pensé à s'embrasser. Aux Champs-Élysées, aux Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées.
C'était aux Champs-Élysées de Joe Dassin. Dans le cadre festival Rétine et Lumière, nous nous sommes rendus au cinéma pour assister à la diffusion du film Dilili à Paris.
Dilili à Paris est un film d'animation franco-belgo-allemand de Michel Ocelot, sorti en 2018. Il raconte les aventures de Dilili, une petite fille franco-kanak, dans le Paris de la Belle Époque, où elle enquête aux côtés du chauffeur de triporteur Aurel pour retrouver des fillettes qui ont mystérieusement disparu, enlevées par un réseau de bandits appelé les Malmaîtres. Aurel propose à Dilili de la promener dans Paris à bord de son triporteur pendant qu'il effectue ses livraisons. Enthousiaste, Dilili découvre les rues et places de Paris.
Comme eux, nous allons retracer le parcours de l'enquête grâce à nos reporters. On retrouve Roman et Lilian en direct des Champs-Élysées.
Merci Yamina. L'avenue des Champs-Élysées, souvent appelée Champs-Élysées, parfois les Champs, est située dans le 8e arrondissement de Paris. Dans le nord-ouest de la ville, elle s'étend sur 1910 mètres d'est en ouest, reliant la place de la Concorde, où se dresse l'obélix de Louxor, et la place Charles de Gaulle, ancienne place de l'Étoile, située au nord de la colline de Chaillot. À l'un de ses points culminants, ce sommet fut abaissé de 5 mètres de 1768 à 1774, et les déblais furent utilisés pour adoucir la pente de l'avenue de Neuilly, un de ses anciens noms, ce qui explique la montée régulière du rond-point à la place au centre de laquelle se trouve l'Arc de Triomphe de l'Étoile. La rue, d'une largeur de 70 mètres, comprend une chaussée de 30 mètres de 4 voies de circulation dans chaque sens et de 2 trottoirs de 20 mètres chacun.
Son tracé rectiligne offre une longue perspective née du palais du Louvre dans laquelle s'aligne la statue équestre de Louis XIV dans la cour Napoléon du Louvre, l'Arc de Triomphe du Carrousel, le jardin des Tuileries, l'obélisque, l'Arc de Triomphe et plus loin à l'ouest en dehors de Paris, l'Arc de la Défense. Il s'agit de l'axe historique de l'ouest parisien.
Dans sa partie inférieure, à l'est du rond-point des Champs-Élysées et Marcel Dassault, l'avenue est bordée par des contre-allées, baptisées Promenade des Champs-Élysées, longeant les jardins des Champs-Élysées que l'avenue traverse ainsi sur toutes les longueurs, soit 700 mètres. Ces jardins, larges de 300 à 400 mètres, sont divisés en espaces rectangulaires appelés carrés.
Site touristique majeur, elle est souvent passée pour la plus belle avenue de la capitale et est connue en France comme la plus belle avenue du monde.
Chaque année, à l'occasion de la fête nationale française le 14 juillet, le principal défilé militaire de France, terrestre aérien, a lieu sur les Champs-Élysées. Les troupes des quatre armées, armées de terre, marine nationale, armée de l'air et gendarmerie de la police, et des pompiers civils et militaires descendent l'avenue et passent devant le président de la République, le gouvernement et les ambassadeurs étrangers rassemblés sur une tribune officielle montée place de la Concorde face à l'avenue.
Je laisse la parole à Emma et Hélène en direct de la Tour Eiffel.
Merci Asma. Nous nous trouvons au pied de la Tour Eiffel et c'est assez impressionnant. La Tour Eiffel est une tour de fer de 324 mètres de hauteur avec antenne située à Paris, à l'extrémité nord-ouest du parc de Champ-de-Mars, en bordure de la Seine, dans le 7e arrondissement. Son adresse officielle est 5, avenue Anatole France, construite par Gustave Eiffel et ses collaborateurs pour l'exposition universelle de Paris de 1889 et initialement nommée Tour de 300 mètres. Ce monument est devenu le symbole de la capitale française et un site touristique de premier plan.
Il s'agit du second site culturel français payant le plus visité en 2011 avec avec 7,1 millions de visiteurs, dont 75% d'étrangers en 2011. La cathédrale Notre-Dame de Paris est en tête des monuments à l'accès libre, avec 13,6 millions de visiteurs estimés, mais il reste le monument payant le plus visité au monde. Depuis son ouverture au public, elle a accueilli plus de 300 millions de visiteurs.
D'une hauteur de 312 mètres à l'origine, la Tour Eiffel est restée le monument le plus élevé du monde pendant 40 ans. Le second niveau du troisième étage, appelé parfois quatrième étage, situé à 279,11 mètres, est la plus haute plateforme d'observation accessible au public de l'Union européenne et la deuxième plus haute d'Europe, derrière la tour Ostinkino à Moscou, culminant à 337 mètres. La hauteur de la tour a été plusieurs fois augmentée par l'installation de nombreuses antennes. Utilisée dans le passé pour de nombreuses expériences scientifiques, elle sert aujourd'hui d'émetteur de programmes radiophoniques et télévisés.
Parmi les nombreuses répliques de la tour Eiffel, on peut citer à Lyon, en France, sur la colline de Fourvière, se trouve la tour antenne radio de Lyon, réplique du troisième étage de la tour Eiffel. À Prague, en République tchèque, la tour de Pétrin d'une hauteur de 60 mètres s'inspire de la tour Eiffel. À Las Vegas, aux États-Unis, une réplique de 165 mètres de hauteur a été construite dans le cadre du complexe hôtelier Paris-Las Vegas. À Tokyo, au Japon, la tour de Tokyo est une tour orange et blanche située dans l'arrondissement de Minato. Son concept est fondé sur celui de la tour Eiffel de Paris. Elle a été réalisée par l'architecte Tashuna Ito. Enfin, à Hangzhou, en Chine, se trouve une réplique de la tour Eiffel haute de 108 mètres.
Nous retrouvons maintenant Manjak, Sabrina et Amanda depuis l'Opéra Garnier.
Merci Yamina. L'Opéra Garnier est un monument du 9e arrondissement de Paris situé à proximité de la Bibliothèque nationale et du Palais Brongniart. Les ors, les marbres et les riches étoffes décorent la façade, les escaliers, les salles d'apparat et les salles de spectacle. Il est surmonté d'un dôme dont le plafond fut décoré par Marc Chagall.
En 1960, un concours est lancé pour la construction d'un nouvel opéra qui devait remplacer l'opéra Le Pelletier où avait eu lieu 2 ans plus tôt un attentat contre l'empereur Napoléon III. La nouvelle salle devait être située dans une rue plus grande et moins favorable aux attentats. La compétition réunit 171 candidats parmi lesquels des grands noms comme Eugène Viollet, le duc, mais c'est finalement un jeune inconnu du nom Charles Garnier qui a retenu le jury.
Pendant près de 15 ans, il travaille à concrétiser son projet à l'aide de 60 sculpteurs et 14 peintres. Les travaux avancent à pas de tortue et connaissent plusieurs obstacles, notamment liés à la qualité des sols.
Finalement, l'inauguration du bâtiment, commencé sous le Second Empire, se fera sous la Troisième République le 5 janvier 1875. L'Opéra Garnier devient un symbole de luxe et des plaisirs de la capitale s'impose comme la pièce maîtresse du Paris du Second Empire voulu par le baron Haussmann.
Rendons-nous maintenant à l'intérieur de l'Opéra Garnier. La scène de l'opéra est un modèle à l'italienne caractérisé par ses grandes dimensions qui en font, à l'époque de sa construction, la plus vaste du monde, 49 mètres de long, 26 mètres de profondeur, 72 mètres de hauteur et 1350 mètres carrés de superficie. La salle surmontée d'un dôme décoré par Marc Chagall, un lustre qui est également suspendu dans la taille de 8 mètres, correspond à une maison de 2 étages. Le plafond rend hommage à 14 compositeurs et chorégraphes.
Je crois que nos deux reporters, Sophie et Clara, sont en direct du Moulin Rouge.
Effectivement, nous nous trouvons devant le Moulin Rouge, qui est un cabaret historique situé à Paris, au pied de la butte de Montmartre, dans le quartier Pigalle, dans le 18e arrondissement. Il est devenu un monument emblématique de la ville de Paris et attire de nombreux touristes grâce à sa décoration qui inclut notamment un détail insolite, un grand moulin à vent peint en rouge qui se dresse sous la toiture.
Il fut créé le 6 octobre 1889 par l'Espagnol Joseph Olé et le Français Charles Zidler, homme de spectacle qui avait fait fortune dans Paris pendant une période prospère et paisible, faisant suite aux nombreuses guerres et changements politiques qui jalonnèrent le XIXe siècle. Durant la Belle Époque, les Parisiens appauvris et démoularisés par les guerres interminables souhaitaient se distraire et s'amuser, le Moulin Rouge tombait à point nommé.
Chaque soir, des danseuses se produisent sur la scène du cabaret devant des personnes de tout rang, comtes, bourgeois comme hommes de petits travaux. C'est dans ces circonstances que se développe en ce lieu la célèbre danse du cancan.
De nombreux intellectuels se côtoient au Moulin Rouge, qui devient un vrai repère d'artistes. Henri de Toulouse-Lautrec, subjugué par le contraire de Montmartre, se rend régulièrement au cabaret pour y réaliser des peintures. Il avait même une table réservée à sa personne. Il a laissé une importante collection de peintures représentant des scènes de vie au Moulin Rouge.
Continuons notre parcours pour retrouver Maïlys et Colline.
Merci Yamina. Nous sommes devant la basilique du Sacré-Cœur, qui est un monument religieux catholique situé à Paris, sur la butte Montmartre.
Elle a été construite dans un style éclectique romano-byzantin entre 1875 et 1923. Avec plus de 10 millions de visiteurs par an, c'est le deuxième monument de France le plus visité après la cathédrale de Notre-Dame de Paris.
Sa construction a duré 40 ans. La construction de la basilique est la réalisation d'un vœu des catholiques français réunis en pèlerinage à Paray-le-Monial. Pour eux, il s'agit de redonner confiance aux Français après la défaite de la France dans la guerre franco-allemande de 1870-1871. Surtout après la tentative révolutionnaire de la Commune de Paris au printemps 1871. La construction est confiée à l'architecte Paul Abadie qui s'inspire des coupoles de la cathédrale Saint-Front de Périgueux qui vient de restaurer.
Mais savez-vous pourquoi la basilique reste blanche ? Elle est faite de pierre calcaire des carrières du château de Landon qui s'auto-nettoie quand il pleut.
Merci Maïlys et Colline. Nous retrouvons maintenant Kayla et Léo.
Merci Asma. La cathédrale Notre-Dame de Paris est située dans l'île de la Cité, dans le 4e arrondissement. Ce n'est pas la plus grande des cathédrales françaises, mais la plus remarquable en raison de son architecture gothique. L'actuel édifice gothique fut construit de 1163 à 1345 à l'initiative de l'évêque du Paris Maurice de Saint-Sulpice et achevé pour l'essentiel vers le milieu du XIIIe siècle.
Cette cathédrale a inspiré tous les artistes, poètes et musiciens, de François Villon à Victor Hugo. Les distances routières de France se calculent à partir du point 0 km situé sur le parvis. Les deux rosaces qui ornent chacun des bras du transept sont parmi les plus grandes d'Europe, et ont chacune un diamètre de 13 mètres. Ces tours atteignent une hauteur de 69 mètres, sa longueur est de 127 mètres, sa largeur de 48 mètres, la hauteur de sa flèche est de 96 mètres et la largeur de la façade est de 43,5 mètres.
Les gargouilles désignent normalement les extrémités des conduits d'écoulement des eaux et ont souvent la forme d'animaux fantastiques. Celles de Notre-Dame n'ont pas cette utilité. Elles n'ont qu'un effet décoratif. La plus célèbre est l'Astrige, esprit nocturne et malfaisant des légendes orientales.
Juste au niveau surplombant, les trois portails, on observe les galeries des rois de Juda. Ces reconstitutions sont l'œuvre de Viollet-le-Duc et les fragments originaux peuvent être observés au musée du Moyen-Âge à l'hôtel de Cluny à Paris. Sa rosace, qui est la plus grande d'Europe, mesure 12 mètres de diamètre.
Merci Léo, je crois que nos deux derniers reporters, Maxime et Noah, sont en direct.
Oui, effectivement, Yamina, nous nous trouvons à Montmartre, qui est un quartier de Paris, situé au nord de la ville, dans le 18e arrondissement. Montmartre est un ancien village qui fut incorporé dans Paris en 1860. C'est dans ce quartier que se trouve le point culminant de Paris à 130 mètres.
Montmartre est un lieu touristique les plus fréquentés de Paris. C'est dans ce quartier que se trouve la place du Tertre, célèbre pour ses peintures, et la basilique du Sacré-Cœur. Le quartier est également réputé pour ses vignes et ses ruelles. Montmartre est un quartier au charme authentique, célèbre pour la basilique du Sacré-Cœur. sa vue magnifique sur Paris. Le haut de la colline se découvre en empruntant un funiculaire. Les plus sportifs effectuent l'ascension des 222 marches à travers le square Louise Michel.
Après l'incontournable visite de la basilique, les visiteurs peuvent partir pour une flânerie historique sur la butte de Montmartre, la place du Tertre et ses célèbres caricaturistes, l'espace Dali, les vignes de Montmartre, le musée Montmartre.
La balade peut se poursuivre en redescendant vers le Moulin Rouge, cabaret historique où aux soirées endiablées et mondialement connues. À quelques minutes à pied du Moulin Rouge, le salon de thé du jardin du musée de la vie romantique est idéal pour une pause gourmande. Nous espérons vous avoir donné envie de visiter Paris. À vous les studios.
Merci Noah. Nous retrouvons Emeline, Roxane, Eline et Emma pour nous parler du projet Danse et Marionnette après un court extrait musical.
Il était trois fois trois fées fatiguées qui avaient vendu leurs trois baguettes magiques pour se reposer et se faire bronzer à Honolulu au soleil sous les tropiques. Alors les contes de fées, les histoires de rois s'étaient embrouillés à bras cacacadabra. Alors les contes de fées, les histoires de rois s'étaient embrouillés à bras cacacadabra. Blanche-Neige est retrouvée avec le nez allongé, pas facile pour embrasser le beau prince en habit doré. Il était trois fois trois fées fatiguées qui avaient vendu leurs trois baguettes magiques pour se reposer et se faire bronzer à Honolulu au soleil sous les tropiques. Alors les contes de fées, les histoires de rois s'étaient embrouillés à bras cacacadabra. Alors les contes de fées, les histoires de rois s'étaient embrouillés à bras cacacadabra. Les sept nains et Cendrillon, masqués comme des mirlitons, dans un carrosse potiron, s'en vont au bal Manchausson. Il était trois fois trois fées fatiguées qui avaient vendu leurs trois baguettes magiques pour se reposer et se faire bronzer à Honolulu au soleil sous les tropiques. Alors les contes de fées, les histoires de rois s'étaient embrouillés à bras cacacadabra. Alors les contes de fées, les histoires de rois s'étaient embrouillés à bras cacacadabra.
Merci Asma, c'était la chanson des fées de Dominique Dimet. Au premier trimestre, notre classe s'est rendue à la salle Pablo Picasso pour assister au spectacle chromatique chorégraphié par Julien Fisli de la compagnie Filament. Un dossier de projet artistique a été déposé afin de travailler avec lui sur le thème danse et marionnettes.
À travers sa danse, Julien Fisli s'est inspiré de l'histoire du petit chaperon en rouge.
À notre tour, nous allons vous conter cette histoire, mais attention, pas celle de Perrault ou Grimm, une histoire différente, celle de Roald Dahl qui revisite les contes.
Quand le loup sentit des tiraillements et que de manger il était grand temps, il alla trouver Mère Grand. Dès qu'elle eut ouvert, elle reconnut le sourire narquois et les dents pointues.
Le loup demanda, « Puis-je entrer ?» La grand-mère avait grand-peur. « Il va, se dit-elle, me dévorer sur l'heure. » La pauvre femme avait raison. Le loup affamé l'avala tout rond, mais la grand-mère était curieuse.
« C'est peu, dit le loup, faisant la grimace. C'est à peine s'il m'a semblé avoir eu quelque chose à manger. » Il fit le tour de la cuisine en glapissant. « Il faut que je reprenne absolument. »
Puis il ajouta d'un air effrayant, « Je vais donc attendre ici un moment que le petit chaperon rouge revienne des bois où pour l'instant elle se promène. » Un loup a beau avoir de mauvaises manières, il n'avait pas mangé les habits de grand-mère.
Il mit son manteau, coiffa son chapeau, enfila sa paire de godillots, se frisa les cheveux au fer et s'installa dans le fauteuil de grand-mère. Quand le chaperon rouge arriva essoufflé, elle trouva grand-mère plutôt changée.
« Que tu as de grandes oreilles, Mère Grand, c'est pour mieux t'écouter, mon enfant. Que tu as de grands yeux, Mère Grand, c'est pour mieux te voir, mon enfant. » Derrière les lunettes de Mère Grand, le loup la regardait en souriant.
« Je vais, pensait-il, manger cet enfant. Ce serait une chair plus tendre que la Mère Grand. » Après les merles un peu secs, des ortolans, mais le petit chaperon rouge déclara. « Grand-mère, tu as un manteau du tonnerre. Ce n'est pas le texte, dit le loup. Attends, tu devais dire, comme tu as de grandes dents, enfin, peu importe ce que tu dis ou non, c'est moi qui vais te manger de toute façon. »
La petite fille sourit, puis battant des paupières, de son pantalon sortit un revolver. C'est à la tête qu'elle visa le loup et bang, l'étendit, raide, mort d'un coup.
Quelque temps après, dans la forêt, Chaperon Rouge a rencontré. Quelle transformation ! Adieu, rouge manteau, adieu, ridicule petit chapeau. Salut, me dit-elle, regarde donc, s'il te plaît, mon manteau en loup, comme il est croquignolé.
Merci, Emma, mais finalement, le petit chaperon, est-il vraiment rouge ? Voici l'histoire du petit chaperon qui n'était pas rouge, de Sandrine Beau et Marie Despons.
Il était une fois une petite fille qui vivait au bord d'une forêt, dans le nord de la Russie. Sa grand-mère, qui tricotait, la gâtait beaucoup. Elle lui avait fait un long manteau bleu de petits gants bleus et lui avait cousu une chope chapka bleue, si bien que tout le monde l'appelait le petit chaperon bleu.
Un jour, sa mère lui dit « Porte vite ce petit pot de miel à ta grand-mère malade. Elle t'attend et ne traîne pas en route, Anouchka. La forêt est profonde et pleine d'animaux dangereux. »
Le petit chaperon bleu partit aussitôt pour aller chez sa grand-mère qui habitait de l'autre côté du bois. Ses petites nattes dansaient sous le chapka et dans son dos se trouvait sa balalaïka, la petite guitare qui ne la quittait pas.
Bien vite, la petite fille oublia les recommandations de sa maman. Elle posa son panier, sa balalaïka, et se jeta dans la neige fraîche pour y dessiner un ange en agitant ses jambes et ses bras. Elle dévala un grand champ pour être la première à laisser la trace de ses pas dans l'étendue blanche.
Tant et si bien que, quand elle rentra dans la forêt, la nuit tombait déjà. Il faisait froid maintenant. Le petit chaperon bleu frissonna, et voilà qu'un ours se dressait devant elle. « Où vas-tu comme ça, petite fille ?» gronda l'ours avec un air mauvais. « Ta maman ne t'a pas dit qu'il ne fallait pas traîner dans les bois ?»«
Si, monsieur l'ours, » répondit Anouchka, « mais ma grand-mère est malade, et je dois lui apporter un petit pot de miel. »« Un petit pot de quoi ?» demanda l'ours avec une voix soudain radoucie. « De miel, » répéta la petite fille. « Mais si vous le voulez, je vous le donne. Je jouerai un morceau de balalaïka à ma grand-mère à la place. Elle sera quand même contente. Marché conclu, s'exclame l'ours. Et pour remercier le petit chaperon bleu, il la laissa dormir toute la nuit contre sa toison chaude.
Au lever du soleil, le petit chaperon bleu salua l'ours et reprit sa route. Elle n'avait pas fait trois pas qu'un tigre long aux dents se dressait devant elle. « Vois-tu comme ça, petite fille ?» gronda le tigre de Sibérie avec un air mauvais. « Ta maman ne t'a pas dit qu'il ne fallait pas traîner dans les bois ?»«
Si, monsieur le tigre, » répondit Anouchka, « mais ma grand-mère est malade et je dois aller lui jouer un air de balalaïka. »« Un air de quoi ?» demanda le tigre avec une voix soudain radoucie.
« De balalaïka, » répéta la petite fille, « mais si vous voulez, je vous en joue un, rien que pour vous. Ma grand-mère attendra encore un peu. Elle sera quand même contente. »« Marché conclu, » s'exclama le tigre de Sibérie, qui était un grand amateur de musique. » Et pour remercier le petit chaperon bleu, il l'accompagna ensuite jusqu'au bout de la forêt.
Le petit chaperon bleu salua le tigre de Sibérie et reprit sa route. Sur le sentier qui l'a mené chez sa grand-mère, elle se trouva nez à nez avec un petit lapin. « Où vas-tu comme ça, petite fille ?» gronda le petit lapin avec un air mauvais. « Ta maman ne t'a pas dit qu'il ne fallait pas traîner dans les bois ?»« Si, monsieur le lapin, » répondit Anouchka en se retenant de rire, « mais ma grand-mère est malade et je dois lui rendre visite. »
« Elle a des choux, ta grand-mère ?» demanda le petit lapin avec une voix soudain radoucie. « Des choux ?» répéta la petite fille. « Oui, je pense. Si vous voulez, nous pouvons aller voir ensemble. Ma grand-mère adore avoir de la visite. Elle sera contente. »« Marché conclu !» s'exclama le petit lapin qui était un petit gourmand. Et il accompagna le petit chaperon bleu jusque chez sa grand-mère.
Quand le petit chaperon bleu poussa la porte, elle n'avait plus rien dans son panier. Elle n'avait que sa balalaïka accrochée dans le dos. Et un petit lapin qui trottinait à ses côtés. « Quelle bonne surprise, Anouchka chérie !» lui dit sa grand-mère. « Rien que de te voir, je me sens déjà mieux. Mais qui est là avec toi ?»«
Un petit lapin qui aimerait bien croquer un de tes choux !» répondit la petite fille en souriant. « Quelle bonne idée, Anouchka chérie !» s'exclama la grand-mère en se levant. « Un bon casse-croûte, voilà qui nous remettra complètement !»
Et c'est ainsi que le petit chaperon bleu et sa grand-mère se régalèrent du meilleur ragoût de lapin qu'elle n'avait jamais mangé depuis longtemps.
Si tu n'aimes pas cette fin et si tu veux sauver le lapin, tourne la page.
Et c'est ainsi que le lapin dévora tous les choux du jardin et avala la meilleure grand-mère qu'il n'ait jamais mangée depuis longtemps.
Si tu n'aimes pas cette fin et si tu veux sauver la grand-mère, tourne la page.
Et c'est ainsi que le méchant petit lapin préparait une délicieuse potée aux choux du jardin et à la petite fille. Une jolie potée aux teintes bleutées, la meilleure qu'il n'avait jamais mangée depuis longtemps.
Si tu n'aimes pas cette fin et si tu veux sauver le petit chaperon bleu, tourne la page.
Et c'est ainsi, entre choux croustillants et crêpes sucrées, qu'une petite fille rusée, sa grand-mère et un petit lapin gourmand firent le meilleur dégoûté.
Si tu n'aimes pas cette fin, tourne la page et invente-en une.
Merci Emeline. Et vous, quelle fin avez-vous choisi ?
C'est ainsi que s'achève notre émission radio.
C'était la classe de CM1 CM2 de Madame Fritz, de l'école Henri Barbus à Omicourt sur Radio Franca. Bonne journée à tous.
Retrouvez toutes les émissions sur franca-on-r.fr.